Nutri Radio présente le Nutri Talk Gala. Pour la troisième année consécutive, le Nutri Talk Gala revient avec un moment unique mêlant expertise santé et divertissement. Cette année, un plateau d'experts exceptionnels pour mieux comprendre les hormones, le métabolisme et la longévité. Avec notamment Fabrice Denis, professeur, chercheur associé au CNRS, expert en IA et médecine de longévité. Stéphane Résimon, médecin spécialisé en médecine intégrative, expert en hormonologie et micronutrition. Le Nutri Talk Gala, samedi 13 juin, à l'Élysée-Biarritz, à Paris. Programme complet, intervenants et renseignements sur NutriTalkGala.fr.
Nutri-Thérapie Co. Jean-Paul Curtet sur Nutri Radio.
Bienvenue tout le monde, si vous nous rejoignez ici sur Nutri Radio avec le docteur Jean-Paul Curtet sur Nutri Radio, comme chaque lundi de 10h à 11h. Merci d'être avec nous, docteur, et bonjour.
Oui, bonjour, bonjour.
Aujourd'hui, un thème aussi délicat qu'essentiel, les médicaments.
Oui, on est toujours dans l'eau. Les médicaments, parfois, sont nécessaires, malheureusement. C'est vrai qu'on pourrait en consommer moins si on avait une meilleure alimentation, qu'on avait un meilleur mode de vie, qu'on faisait plus de prévention. Mais bon, visiblement, vous savez que le médecin n'est pas payé pour une consultation de prévention. Ce n'est pas remboursable par la Sécu. Et c'est quand même incroyable. Mais bon. Donc, du coup, on est un des plus grands consommateurs au monde de médicaments, et en médecine humaine, et en médecine vétérinaire. Ces médicaments, ben, on les consomme, on les modifie, ils sont transformés, et ils passent une partie, sont éliminés par les urines, par les selles, et évidemment, à partir de là, ben, ça repart dans l'environnement. Bon. Et ça ne s'améliore pas. On a enregistré en 30 ans 450% d'augmentation des dépenses des Français dans les médicaments. Je vais vous citer une autre étude qui m'a vraiment frappé. C'est le professeur Olivier Saint-Jean à l'hôpital de Georges Pompidou à Paris, qui, vous savez, avec Big Data, on a le droit maintenant d'accéder à les données. Donc il a obtenu, évidemment, c'est anonyme, mais la totalité des dossiers de sécurité sociale des seniors de plus de 80 ans.
Et alors, verdict ?
Combien de médicaments consomment-ils ? 10 médicaments par jour en moyenne.
C'est énorme, 10 par jour !
Eh oui, alors qu'un pharmacien apprend la première année de ses études, au bout de 3 médicaments, on ne peut plus contrôler les interactions. C'est-à-dire qu'il y a un médicament qui fait un effet secondaire, on va corriger par un autre médicament, ainsi de suite. Enfin, bon.
Oui, c'est un effet, c'est un cercle vicieux.
Et voilà. Une autre source majeure de pollution médicamenteuse, les rejets de l'industrie chimique, évidemment, l'industrie pharmaceutique, évidemment, mais les établissements de soins aussi. On va voir une étude tout à l'heure parlante là-dessus. Des établissements de soins, des cabinets vétérinaires, des élevages animaliers, piscicoles, les abattoirs, les centres d'écarissage, les collectivités locales qui font des boues, des composts. Pour rappeler aussi qu'on a la bonne idée de répandre sur les champs les épandages des bouts de stations d'épuration qui sont chargés de résidus, y compris médicamenteux. Ça, c'est quand même assez fort. C'est interdit dans les pays scandinaves, mais pourquoi on continue à faire ça chez nous ? Les rejets des établissements de soins représentent une situation particulière en raison du nombre de malades traités, la quantité, la diversité des médicaments, y compris des anticancéreux, des anesthésiques, des antibiotiques, des produits de diagnostic, de contraste, des produits radioactif. Donc, quand il y a même un tout petit peu de trace d'antibiotiques dans votre eau, eh bien, ça va donner l'info à vos bactéries du côlon qui vont apprendre à résister à ces antibiotiques. Donc, du coup, un Français sur 15, à peu près, on estime, est porteur de bactéries antibiorésistantes. Bon, ce qui peut ne pas avoir de conséquences si on est en bonne santé, mais si on a un coup de barre, qu'on est menacé par autre chose, ça peut déclencher une infection grave. Les stations d'épuration n'ont jamais été conçues pour éliminer ces médicaments. Donc, ils se retrouvent comme polluants, parfois encore plus concentrés que les pesticides dans l'eau des rivières et du robinet. Donc, on reprend un petit peu l'histoire. 1976, première mise en évidence de résidus médicamenteux à la sortie d'une station d'épuration de Kansas City, aux États-Unis, plein milieu là des États-Unis, ou à Berlin, au début des années 2000, dans les rivières et les nappes d'eau souterraines qui alimentent la ville en eau potable, les chercheurs mettent en évidence des anti-inflammatoires, des antiépileptiques, des hypolipémiants. En 2002, on réalise des analyses dans 139 rivières, encore aux États-Unis. 80% contenaient des résidus de médicaments en vente libre pour le public, 50% des traces d'antibiotiques, d'hormones comme les œstrogènes. En 2009, des chercheurs de l'Université de Montréal détectent dans le fleuve du Saint-Laurent de faibles concentrations de molécules utilisées contre le cholestérol, l'hypertension, le cancer. Radio-Canada commente une pharmacie à ciel ouvert. En France, en 2009, une équipe coordonnée par un grand spécialiste médical des pesticides, le docteur Joël Spirou de Vendômois, étudie les effluents du CHU de Rouen. La quasi-totalité des molécules détectées dans les eaux usées du CHU sont encore présentes à la sortie de la station d'épuration. Les concentrations de ces molécules sont parfois plus élevées dans les eaux résiduelles que dans les eaux usées parvenant à la station. L'estimation des volumes rejetés dans la Seine à la sortie de la station représente des quantités de plusieurs centaines de grammes par jour pour les produits les plus courants, y compris par exemple des opioïdes, dont on a vu qu'ils ont tué 700 000 personnes aux États-Unis, la crise des opioïdes, soit plusieurs dizaines de kilos à l'année pour le seul CHU de Rouen. Cette étude confirme donc l'inefficacité, mais bon, on ne peut pas le reprocher non plus, elles n'étaient pas conçues pour ça, des stations d'épuration traditionnelles dans l'élimination de ces déchets pharmaceutiques dissous. Bon, ceci dit, il faudrait s'y mettre. Une étude conduite par l'Agence française de sécurité sanitaire de l'environnement du travail montre que des molécules anticancéreuses très actives présentant un danger potentiel pour la santé humaine et l'environnement sont présentes à des quantités non négligeables, je cite guillemets de l'agence, dans les effluents hospitaliers, mais aussi en aval de la station d'épuration qui recueille ceci, et nous, on avale l'eau. Depuis, d'autres études retrouvent régulièrement des antidépresseurs, des antibiotiques, des anti-inflammatoires anticancéreux, produits de contraste, arrêtez-moi, utilisés dans l'imagerie médicale, dans les cours d'eau, dans les nappes phréatiques et certains jusque dans l'eau du robinet, bon, et ben voilà, et même dans les eaux en bouteille.
Est-ce qu'il y a des molécules plus dangereuses, on va dire, que d'autres ?
Oui, ben, par exemple, ces anticancéreux, évidemment, sont des produits agressifs, mais déjà les antibiotiques posent problème, puisque les bactéries, elles utilisent l'info pour apprendre à résister aux antibiotiques et elles exportent l'info par un petit anneau d'ADN qu'elles exportent aux autres bactéries de la même espèce et même d'autres espèces.
D'accord.
Donc, le fait, si vous voulez, d'avoir ce contact avec les antibiotiques dans l'eau du robinet, même si ce n'est pas beaucoup, eh bien, ça peut avoir des conséquences extrêmement importantes. Alors,
depuis,
évidemment,
il y a eu d'autres études, j'imagine.
Pardon ?
Depuis, il y a eu d'autres études, j'imagine, qui sont sorties.
L'Académie de pharmacie préconise une politique de prévention. Ça me paraît évident. Mm-hmm. Mais bon, après, sur les faits, je ne vois pas grand-chose vraiment se faire encore. C'est à l'usager d'assainir son eau, ce qui n'est pas tout à fait normal. Vu qu'on paie déjà le traitement de l'eau, il faut après investir dans un filtre, parce que sinon, on s'empoisonne tout seul avec son eau du robinet. Lors de la première conférence internationale sur les résidus de médicaments dans l'environnement, qui s'est tenue en septembre 2016, quelques 250 chercheurs ont fait le point sur la recherche. Alors, il y avait des représentants du ministère de l'Environnement. Le ministère de la Santé a décliné sèchement d'envoyer qui que ce soit. Curieux. Pourtant, il est établi qu'une exposition régulière à des antibiotiques, même à faible dose, contribue à permettre à de nombreuses bactéries d'acquérir donc ces capacités d'antibiorésistance. Je rappelle quand même qu'en 2015, ça a tué 13 600 Français. Alors, c'est vrai, surtout des Français qui étaient malades, en soins intensifs, mais qui sont morts de l'incapacité de réagir aux antibiotiques comme il le faudrait. Et en partie, la faute en revient, bon, pas seulement à l'abus d'antibiotiques en médecine, mais à des contaminations, dont une grande source est l'élevage intensif industriel, où les animaux sont tellement stressés qu'on est obligé de les traiter. Pratiquement, le poulet, chaque semaine, reçoit des antibiotiques. D'autres médicaments, en préventif, pas les animaux malades.
Oui,
en bio, on va isoler l'animal malade, on va traiter l'animal malade. Dans les élevages industriels, c'est différent. D'autres médicaments, pilules, traitements substitutifs de la ménopause, ont des effets hormonaux, promoteurs de cancer qui s'ajoutent à ceux des perturbateurs endocriniens. Une enquête de 60 millions de consommateurs de la Fondation France Liberté a révélé la présence de traces de pesticides et médicaments, dont un pour traiter le cancer du sein, dans environ 20% des eaux en bouteille.
En bouteille maintenant en plus.
En bouteille, oui, 100 fois plus cher que l'eau du robinet. La grande surprise, écrit 60 millions de consommateurs, est la présence de tamoxifène, une hormone de synthèse utilisée dans le traitement du cancer du sein, dans, excusez-moi, je cite des noms parce que c'est le rapport, c'est publié, Montroucou, Saint-Yor, Salvetta, Saint-Amand, Cristalline. La teneur est infime, mais c'est suffisant pour qu'on s'interroge sur la pureté originelle imposée par la réglementation des eaux minérales. Bon. La seconde analyse a confirmé cette présence sans que nous soyons en mesure d'en expliquer l'origine, ajoute encore 60 millions de consommateurs. L'affaire est suffisamment sérieuse pour qu'on lance des analyses à plus grande échelle, c'est sûr. Du buflomédil, du naphtidrofuril, des vasodilatateurs ont été également détectés dans les parts, pour le premier, dans la Saint-Amand pour le second, bon, etc., etc. Je passe parce que malheureusement, ça concerne Vittel, Volvic, Corac...
À toutes les eaux, hein, finalement.
Pas tout à fait toutes. Il y en a qui seraient plus propres que d'autres, mais bon. Après, il y a le problème du plastique.
Il
va relarguer les micros et puis même maintenant les nanoplastiques. Hein, vous vous rappelez, les chiffres... avant, on ne savait pas les analyser. Donc,
Et ben maintenant, on est bon. Hein.
voilà.
On va continuer. Oui, dites-moi.
Quand on ne sait pas, ça n'existe pas.
Ah bah oui, on ferme les yeux. On fait une courte pause, Jean-Paul, et on revient dans un instant sur Nutri Radio. Ne bougez pas.
Découvrez Nutri TV, la première plateforme vidéo dédiée à la santé intégrative, à la prévention et à la nutraceutique. Des masterclass exclusives animées par des experts reconnus, des émissions et reportages pour mieux comprendre votre corps et les avancées scientifiques. Micronutrition, actifs de santé naturelle, techniques de bien-être. Nutri TV, c'est aussi des entretiens inspirants avec des personnalités visionnaires et engagées. Un accès illimité pour seulement 7,99€ par mois. Apprenez, inspirez-vous et enrichissez vos connaissances pour une meilleure santé. Abonnez-vous sur www.nutritv.fr.
Nutrithérapie & Co. Jean-Paul Curtet sur Nutri Radio.
On est de retour ici sur Nutri Radio avec Dr Jean-Paul Curtet et on parle des médicaments, Jean-Paul.
Oui, donc il y a pendant 30 ou 40 ans, j'ai conseillé les eaux en bouteille, parce que surtout les eaux minérales, parce que ça apporte un peu de magnésium, un peu de calcium, etc. Bon, mais maintenant... À part si on arrive à s'en procurer en bouteille de verre, ce qui est difficile, eh bien, on ne peut plus conseiller ça. Voilà. Et pourtant, ces eaux en bouteille sont encore plus infiniment contrôlées que l'eau du robinet. Ça veut dire que la diffusion de médicaments dans l'environnement est telle qu'elle affecte les nappes phréatiques les plus protégées de France. Hein. Les embouteilleurs sont obligés d'acheter des terrains étendus autour de leurs sources et d'imposer le bio pour préserver la qualité de leur eau. Et visiblement, ça ne suffit pas. L'eau du robinet, dans la même étude, sur 10 prélèvements, 8 contiennent 1 à 4 molécules sur les 85 recherchées, principalement pesticides, de nouveaux résidus de médicaments, de nouveau le tamoxifène, surtout dans les milieux urbains. Alors après, il y a des gens qui vous disent, oui, mais alors les bonbonnes, vous savez, les grosses bonbonnes là, qui font distributeur d'eau, on y trouve des traces de phtalates, un perturbateur endocrinien, du bisphénola, de l'atrazine, un retardateur de flamme, dans la Culligan Val-de-Marne, plusieurs mesures s'imposent. Tout d'abord, moi, ce que je préconise depuis toujours, c'est de développer à l'école un parcours santé. Je sais que les politiciens ont discuté, mais ma connaissance n'est toujours pas en place, parce qu'on aurait dû mobiliser en service civique les étudiants en médecine, d'écoles vétérinaires et d'autres, à faire ce travail de communication dans les écoles. Mais bon... Il y a eu le Covid qui est passé par là, je ne sais pas trop quoi, mais enfin, bon, apparemment, ce n'est pas en place. Et pourquoi ? Parce que c'est chez les enfants avant l'adolescence. À l'adolescence, c'est normal, il y a une crise identitaire, on va faire toutes les bêtises, prendre plus de risques, etc., tout le monde connaît. Mais avant, on peut préparer, même si l'ado va faire ses expériences, s'il a eu les bonnes bases, il va pouvoir s'y raccrocher, quand nécessaire. Sinon, non, il n'y a pas de référence. Comment bien manger, comment préserver sa santé, comment éviter les maladies sexuellement transmissibles, comment éviter de fumer, etc., etc. C'est des choses simples, à mon avis, qui sont aussi importantes, au moins, qu'apprendre à lire et à écrire. Donc, je pense que ça serait une des mesures les plus importantes qui permettrait, aux citoyens informés de faire de meilleurs choix. À partir du moment où ils n'achètent plus, bah, ça ne se vendra plus,
oui.
ainsi de suite. Mm-hmm. Bon. Ensuite, refondre la formation des médecins. Hein. Le médecin, on l'a dit tout en début de ce cycle, de la chronique de cette année, c'est avec la nutrition et la communication psychologique une lacune béante. Hein. Il n'y a pas de communication sur les polluants, la médecine dite environnementale, mais ce n'est pas seulement les médecins, mais tous les professionnels de santé, les vétérinaires, pour qu'ils puissent disposer des techniques validées alternatives de réduction de la prescription médicamenteuse chez les malades. On a vu jusqu'où ça va avec le professeur Olivier Saint-Jean. Bon. Évaluer le potentiel de nuisance environnementale des médicaments comme l'a fait la Suède. La Suède est le premier pays européen à avoir mis en place depuis 2003, dans plus de 20 ans, un système d'évaluation du risque lié à ces rejets de résidus médicamenteux. Ce système d'évaluation ne concerne actuellement que la qualité des eaux de surface. On a vu malheureusement que ça concerne aussi les nappes phréatiques. Donc sa mise en place a débouché sur la conception d'une échelle de nuisance environnementale attribuée à chaque médicament lors de sa mise sur le marché. Bon, il y a un autre problème, hein, c'est que vous savez qu'en France, un médecin n'a pas le droit de vendre des médicaments. Il n'a rien de droit de vendre d'ailleurs, ce n'est pas un commerce la médecine, mm-hmm. hein, c'est un service. Donc par contre, le vétérinaire, lui, il prescrit et il vend lui-même aux éleveurs les médicaments. Alors, il y a un peu un problème de conflit d'intérêts, là. Hein.
Oui.
Si c'est le prescripteur qui vend aussi, évidemment, ça biaise un peu le positionnement. Vous voyez ce que je veux dire?
Dans quel sens? C'est parce qu'ils peuvent mettre les médicaments.
Si le vétérinaire a intérêt à vendre, il va prescrire.
Ah oui.
Ah bah oui, si c'est lui-même qui vend les médicaments, vous mm-hmm. imaginez le médecin qui fait pharmacie?
Il fait son business.
Il fait son business, mm-hmm. voilà. C'est accepté en médecine vétérinaire. Moi, je pense que ça n'est pas plus acceptable en médecine vétérinaire qu'en médecine humaine.
Mmh. Oui, c'est la même chose.
Il faudrait séparer les deux. Bah oui, parce que là, il y a un conflit d'intérêts. Mmh. Imposer des systèmes spécifiques de filtration, d'épuration des effluents des industries chimiques, pharmaceutiques, des hôpitaux, des élevages, des abattoirs. Donc, on a vu qu'ils sont des endroits sensibles. D'interdire la pratique complètement surréelle de cet épandage de boue d'épuration concentrée en médicaments, métaux lourds, dans les champs. Bon. Alors, la Cour des comptes et l'association de consommateurs UFC Que Choisir mettent en avant que les redevances payées par les industriels, les agriculteurs aux agences de l'eau stagnent sous la barre des 200 millions d'euros par an, alors que celle des consommateurs est passée de 2007 à 2013, de 1,5 milliard à 2 milliards, bon, en gros. En 2013, 80, donc ça, en fait, c'est le pollué qui est payeur, et pas le pollueur. Mm-hmm. En 2013, 87% des redevances perçues par les agences étaient supportées par les usagers domestiques et assimilés, 6% pour les agriculteurs, 7% pour l'industrie. Bah, évidemment, c'est une situation qui favorise la pérennité du problème. Donc il y a vraiment des mesures politiques essentielles à mettre en place. Bon, ces contributions totalement déséquilibrées encouragent les industries agricoles à ne rien changer. Bon, c'est pareil avec les pesticides. Et puis il faudrait rénover des systèmes d'assainissement de l'eau. On a fait des progrès dans les systèmes. Mais ça demande un énorme investissement. Après, il faut voir les priorités.
Oui, et les critères alors que l'on peut proposer pour une eau optimale, alors ce serait quoi?
Alors, l'eau optimale, c'est si possible une eau riche en minéraux, donc calcium, magnésium. On a parlé avec Fabrice des eaux dures hein, qui sont associées dans toutes les études à une réduction des risques d'hypertension, de maladies cardiovasculaires, même de mort subite. Donc, le magnésium est particulièrement important. Par contre, elle ne doit pas être trop salée, évidemment, pour éviter l'hyperhydratation. On sait que c'est une cause d'hypertension et d'accident vasculaire cérébral. Bon, à part ça, quand on est déshydraté, il faut en prendre un peu, évidemment. Si elle contient du silicium, elle représente aussi un avantage, du fait que ce minéral renforce tous les tissus conjonctifs. En fait, tous nos organes et tissus reposent sur des tissus conjonctifs. Par exemple, notre os sur une trame osseuse. Donc, si vous voulez, notre résistance... Hein, à tous les niveaux, tous les vaisseaux, tout est entouré de tissus conjonctifs. Par contre, le fluor en excès n'est pas du tout recommandable, parce que, comme l'a dit Linus Pauling, un double prix Nobel, le fluor lui-même est un oxydant plus oxydant que l'oxygène. Il remplace le calcium dans l'os, ce qui fragilise l'enveloppe des os. Il y a une époque, on l'a même utilisé contre l'ostéoporose, évidemment, ça a augmenté les fractures du col, du fémur, on l'a arrêté. Il peut provoquer une fluorose avec altération de l'émail des dents. Il y a eu des pays qui ont fluoré l'eau du robinet, les enfants se sont retrouvés avec des trous, des dents jaunes, avec des trous dans les dents, etc. Il y a eu une enquête qui avait été diffusée par France 5, Fluor, un ami qui vous veut du mal. Le fluor fait partie des 10 produits chimiques posant un problème majeur de santé publique, je cite, aux côtés d'autres substances toxiques comme l'amiante ou l'arsenic, l'OMS tire la sonnette d'alarme en 2010. Correctement utilisés, les produits à base de fluor pourraient prévenir l'apparition des caries. Par contre, l'excès, bon, fluorose, etc. Une étude française révèle que 45% des 4 à 12 ans ont des apports excessifs en fluor. Alors, il y a des sels de table fluorée. Bon, de toute façon, des gens ont des conseils de sel, mais ce n'est certainement pas la meilleure source. On met l'iode aussi dans le sel de table, mais l'iode, bon, il y a de meilleures sources. Les algues, là, on en a besoin, l'iode pour la thyroïde. À noter que circulent toujours des compléments de fluor à prendre par la bouche. C'est une aberration. Soi-disant, pour la prévention des caries, on en donne même aux femmes enceintes. C'est une aberration. De l'avis des experts, on devrait strictement se limiter à enrichir en fluor les dentifrices, qu'on recrache, préciser qu'il est aussi impératif, évidemment, de se rincer la bouche au final.
Ben merci beaucoup, en tout cas Jean-Paul Curté, pour toutes ces informations. Évidemment, on se retrouve la semaine prochaine avec un nouveau sujet. Merci beaucoup Jean-Paul, à bientôt.
Merci Ombline, merci à tous et profitez bien de la semaine.
Nutrithérapie & Co. Jean-Paul Curté sur Nutri Radio.